Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Virage Marseille. À l'Olympique de Marseille, on ne fait jamais rien normalement, alors quand on implose avec panache, on détruit tout, à coups de conférences de presse dramatiques, de départs précipités et de guerres en interne à ne plus rien y comprendre. Pourquoi tout irait bien quand tout peut aller mal? Cet OM avait tout pour se moderniser et enfin devenir un club consistant au plus haut niveau. Il n'aura pas survécu à cette saison, un exercice laborieusement conclu. Dimanche soir à la 5e place qui marque la fin d'une ère, celle de Pablo Longoria, le jeune génie espagnol, finalement broyé par la machine marseillaise, incapable lui de retenir ses coups de sang et de calmer sa frénésie de transfert, incapable aussi de faire redescendre la pression sur les épaules de son 8e entraîneur Roberto De Zerbi, qui validera ce constat. Jamais un entraîneur n'a réussi à boucler deux saisons complètes sous la présidence de Pablo Longoria. Ses relations dégradées aussi avec Mehdi Bennassia ont eu raison de son poste. Rendons tout de même à César ce qui est à César. Il aurait réussi à tenir 5 ans sur un siège éjectable. Mon Dieu, que cela doit être épuisant. Messieurs, bonsoir, Martin et Alexandre. Ravi de ce retour à vos côtés dans ce Virage Marseille et dans ce sprint final, parce que c'est la dernière semaine de Virage. Comment allez-vous?
Bien.
Super, hein?
Très bien, merci.
On garde ses forces, on garde sa salive donc pour ce bilan qu'on continue de faire avec vous. On va prendre toute votre expérience, tout votre savoir pour analyser cette autodestruction, autopsie avec vous ce soir de cette explosion en cours de ce vaisseau amiral composé de Longoria, de De Zerbi et de Bennassia. Plus aucun d'entre eux n'est là aujourd'hui. Explosion donc à tous les étages. On va parler aussi des relations compliquées qu'il y a eu cette saison entre les médias et le club. Déjà, votre vision des choses, comment avons-nous pu en arriver là, à savoir que ce trio qui était censé être là pour durer n'est plus du tout là?
Tu parlais de com, et ce trio c'était aussi un peu de la com, c'est-à-dire c'est un trio qui nous a présenté un plan sur 3 ans, un projet de stabilité, des promesses de faire ce qui n'avait pas été réalisé auparavant, c'est-à-dire de faire grandir le club au niveau européen en restant serein, prenant de la hauteur. En fait, ils ont fait tout l'inverse. Exactement. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pris de hauteur. Au moindre couac, c'était l'explosion. C'était une hystérie permanente, des crises à répétition, un volcan qui nous faisait... Enfin, c'était tout l'inverse de ce qu'ils avaient promis. Et c'est aussi pour ça, avec des personnalités totalement... pas complémentaire en fait, parce que c'est trois tempéraments de feu, et en fait ce qui devait arriver arriva, un méli-mélo de mauvaises décisions, de mauvaises ententes, l'affaire Rabiot qui est le point de départ de tout, et ça forcément ça devait mal se terminer. Mais même nous qui avions été un peu pas critiques, mais qui observions tout ça en disant attention, ça peut quand même être compliqué. Je ne sais pas si tu te rappelles. On ne pensait pas que, ça allait exploser comme ça en février. Pas possible.
Martin,
avis. Je te rejoins sur deux choses, à savoir l'ambition. Je pense que dès le début, on nous a parlé d'ambition et on a souhaité remettre l'OM à ce qu'était l'OM il y a, je pense, très longtemps, plutôt que d'avancer avec un petit peu plus de prudence et d'humilité, déjà arriver à se restabiliser, notamment en Europe. Et là, ça a tout de suite été un projet pour redevenir... parmi les grandes d'Europe, pourquoi pas concurrencer le Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il y a eu un effet d'ambition, et je te rejoins également sur les personnalités, ou les personnalités volcaniques. Finalement, comme tu le dis très bien, il n'y avait aucune des trois personnalités qui était là pour apaiser ou alléger un petit peu les autres. Et on voit, on a commencé par Pablo qui était quand même un one-man show en tribune, qui s'est un petit peu calmé avec le temps, mais qui vivait les matchs très intensément. Mehdi Bennassia qui est arrivé aussi avec... avec une personnalité bien trempée. C'est ce qui nous a au début rassuré, ce qui nous a fait du bien. Et puis après, on a vu que ça devenait compliqué, notamment avec les joueurs, dans l'entente avec les joueurs. Et Roberto De Zerbi, qui s'est toujours mis en avant et présenté comme un supporter qui est devenu entraîneur et donc qui était dans sa ville préférée.
Oui, il s'est rajouté de la pression en plus parce qu'il a voulu vraiment coller au contexte marseillais. Et au lieu de calmer les ardeurs de celui qui a tendance à partir un peu dans tous les sens, eh bien, ils l'ont un peu surexcité, le duo Longoria-Bedassia.
Énormément. Et il n'a déjà pas besoin de ça. Donc, on en revient à la complémentarité. Et finalement, si je pense qu'avec, s'il n'y avait que de Roberto De Zerbi qui avait une personnalité, un tempérament assez fort, j'irais équilibrer avec deux personnes plus souples, ça aurait matché. Mais là, il suffit
le problème, c'est qu'il n'y avait personne pour prendre de la hauteur, justement. Il n'y avait pas. En fait, le souci, c'est qu'on n'avait pas.
Alexandre, justement, la Provence qui sort cette interview de Jonathan Rowe où il parle de ce stage.
C'est sur The Athletic qu'on l'a repris, en fait.
Mais oui, pardon. Vous l'avez mis en avant aujourd'hui. Là, c'est la preuve qu'il n'y a personne au-dessus pour dire calme-toi, Roberto.
Mais non, mais parce que
attends, c'est pas des Vikings, les mecs.
Enfin, Pablo Longoria a fait du très bon boulot pendant 2 ans et demi, ça, il n'y a aucun problème. Du matin au soir, 24 heures sur 24, pendant 360, il a porté l'OM à bout de bras tout seul pendant 2 ans, sans Paoli Tudor, il ne faut pas non plus oublier tout ça. Mais un président qui a la stature d'un président qui peut dire calme-toi Roberto, mais dit attends, on n'est pas obligé d'être nous contre le reste du monde, c'est pas parce qu'un tel, ça te plaît pas ce qu'il dit, qu'on est forcément ennemi. Tout n'est pas blanc ou noir dans la vie, il y a peut-être une zone grise au milieu, voilà. Et en fait, il n'a pas réussi ça, Pablo. Il n'a pas réussi à prendre cette hauteur-là et on espère que le nouveau président, qui a plus un profil d'homme justement d'expérience, qui prendra la hauteur, qui va rester zen dans les situations compliquées, on espère que ça va se passer comme ça.
C'est vrai qu'il y a eu ce match à Auxerre, tu disais qu'il s'est calmé après par la suite, mais ça, ça l'a un peu tué,
la corruption. Oui, lui, le tout corrupt, ça a été dur. Et dans les personnalités, moi, c'est souvent le prisme que j'aime bien observer, enfin, que j'aime bien partir de ce prisme-là. Je pense que c'est un vrai gentil Pablo Longoria, qui a beaucoup bossé, et je pense qu'avec l'arrivée d'un Mehdi Benassia, pour lui apporter un petit peu ce qui devait lui manquer. Je pense qu'il a dû manquer de fermeté ou il a eu du mal à gérer aussi je dirais Mehdi qui a l'air un petit peu plus volcanique, un petit peu plus un peu bad cops, good cops, je dirais. Et ça, je pense que ça a fait du mal aussi au trio.
Et le symbole de cette com qui n'était pas forcément maîtrisée, qui était un petit peu les nerfs à vif, c'est cette relation qu'il y a eu entre vous, la Provence, entre le journal L'Équipe également et le club, de mémoire de journaliste, de directeur du service des sports.
Nous,
ça n'est quasiment jamais arrivé d'être privé de questions.
On a été privé de questions pendant. On n'a pas été interdit de commanderie, attention. Oui. On a été privé de questions pendant 5-6 semaines, entre 5 et 6 semaines, en conséquence de notre dossier sur Mehdi Benatia. Justement, la réponse c'était ça. Ça a fini par se tasser et se calmer. C'était une situation inédite pour la Provence. Moi, ça fait 15 ans que je suis l'OM, je n'avais pas connu ça. Voilà, c'est regrettable dans le sens où nous, on a fait notre travail tout au long de la saison. On a donné des informations. Malheureusement, c'est quand même pas la faute de la Provence, de l'équipe, de RMC, de vous. Enfin, c'est pas la faute des journalistes si les informations ne plaisent pas aux supporters. On préférerait dire que ce soir il y a un repas de tout le club pour fêter la qualification en Ligue des Champions. On aimerait le raconter cette soirée-là. Malheureusement, on est obligé de raconter les soirées de Rennes, les soirées où Pablo Longoria, Mehdi Benassia, le problème qu'il y a eu en Belgique. On est obligé de raconter tout ça. D'ailleurs, pour faire un petit peu de teasing, on fait une série qui démarre demain matin pendant 8 jours sur les coulisses de cette saison en enfer où on va raconter pas mal de détails sur tout ce qui s'est passé. Nous, on fait notre travail, on fait notre job de journaliste. Après, il y a d'autres personnes qui sont influenceurs, qui sont plutôt là pour... qui sont des créateurs de contenu, des influenceurs, qui sont plutôt là dans leur prisme pro-OM. C'est pas le même métier, en fait. C'est tout simplement. Et ça, il faut peut-être aussi l'expliquer souvent aux gens, parce qu'ils ont l'impression que les journalistes sont tout le temps contre l'OM, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est juste qu'on relate des faits. Voilà.
Est-ce que celui qui est arrivé un petit peu comme un cador du foot européen dans le relationnel, de par son expérience en tant que joueur dans les grands clubs qu'il a eu, je parle de Mehdi Benassia, finalement a raté son passage à l'OM ?
Je suis retombé il n'y a pas longtemps sur une interview qu'il avait passée chez RMC de mémoire qui s'appelait Le Vestiaire, où il recevait avec Leboeuf, Emmanuel Petit, etc. Et il parlait de Pep Guardiola. Et ce qui l'avait choqué avec Pep Guardiola au moment de son passage au Bayern, c'était son manque de connexion avec les joueurs. Où il disait que voilà, il arrivait, il disait, je t'ai recruté, maintenant tu vas faire ci, tu vas faire ça, sinon tu vas pas jouer dans mon équipe. Et il restait un petit peu surpris de cette distance qu'il pouvait mettre avec les joueurs. Et je trouve que ça tranche avec sa dernière interview à la fin du match contre Rennes, où il dit que lui, il est pas là pour être notamment ami avec les joueurs. Et finalement, je pense qu'il s'est perdu dans ce rôle-là. Moi, j'aime bien la relation joueur-direction, et je pense qu'il a, il y a eu, à un moment donné, il y a eu une cassure.
Il y a eu des erreurs aussi. Hein.
Évidemment, il y a eu des erreurs.
Il leur tombe dessus à l'issue d'un match.
Voilà, ça a été ça spécial. Voilà, je sors la sulfateuse, qui sait qui va faire ci, qui sait qui va faire ça. Et je pense qu'il s'est, pour aller plus loin dans l'analyse, il s'est plaint cette année qu'il n'y avait pas de leader. Mais je pense qu'en fait, à partir du moment où un leader allait contre lui, ça ne pouvait pas fonctionner. Parce qu'avec Benatia, soit on est d'accord avec lui, soit on devient un ennemi. Et donc, comment on peut. Comment se positionner dans ce genre de cas, ça me fait penser à la saison dernière où finalement cette saison c'était avec la presse, la saison dernière c'était avec les arbitres, si on se rappelle bien, toute décision arbitrale devenait un problème, on avait fait des communiqués et ça a été le combat, à croire qu'il, peut-être qu'il se nourrit aussi de ce genre de combat ou d'adversité, pendant toute une saison ou une bonne partie de la saison c'était les arbitres ont un problème avec nous, l'OM, on dérange.
Il se nourrit pour en avoir discuté à un moment donné où on discutait encore, il se nourrit de ça.
Ouais.
Il se nourrit de ça. Il est plutôt du genre.
Il a besoin d'adversité.
Pour. Il y a des gens comme ça. Il a besoin d'adversité.
C'est des leviers.
Et ce qui est dommage, ce qui est quand même dommage, c'est qu'il a un énorme réseau.
Ouais.
Qu'il a une connaissance du football monumentale, que c'était un très grand joueur, qu'il a une capacité quand même, il a une énorme capacité à vous motiver,
à vous convaincre.
Ouais. Voilà, ouais. Et il a une très très bonne capacité, ça ferait un bon commercial en fait. Je caricature, mais c'est, il arrive à motiver les joueurs parce qu'il faut le faire venir Rabiot, il faut faire venir Højbjerg, De Zerbi. Ça c'est énorme ce qu'il a fait. Ouais. Le problème, c'est que sa fin d'aventure est gâchée. Enfin, cette saison est gâchée par des relations humaines assez chaotiques, et notamment à l'intérieur du club. Parce que là, on parle de la presse, mais faut aussi parler de toutes les personnes qui sont parties dans le club depuis un an et demi. L'organigramme en perpétuel mouvement, parce qu'il fallait être Mehdi Benatia compatible. Sauf que pas tout le monde l'est, malheureusement. Et après, une entreprise, c'est aussi de savoir travailler avec des gens. De prendre les qualités des gens et de faire ressortir le meilleur d'eux. Et pas de se dire, ah ben non, lui, il est contre moi, allez, au revoir.
C'est même pas contre, c'est souvent pas d'accord. Moi, c'est plus ça. Donc c'est même pas. Bref, après ça crée.
C'est dommage parce que moi je trouve pas que ce passage soit raté, parce qu'il faut se rappeler quand il arrive. Il arrive dans un moment chaotique il redresse. Il permet de faire venir Rabiot. Voilà, c'est un peu comme Vincent Labrune. Quand Vincent Labrune aujourd'hui on dit Vincent Labrune, il a fait partir Bielsa, mais il a aussi fait venir. Benatia, il a fait venir Rabiot, mais il a aussi fait partir.
Bon, en tout cas, il y a tout à reconstruire. On retiendra ça de l'ère Longoria. Il y aura dans cette deuxième partie qu'on va avoir après la pub, on va revenir sur quand même l'héritage Longoria, où on en est aujourd'hui et où on en était quand il est arrivé. Et on a surtout vos tops et vos flops de cette saison qu'on vous a demandé avant de venir dans l'émission. Vous restez avec nous. Alors désolé, j'ai pas WhatsApp, mais vous pouvez m'envoyer des SMS si vous souhaitez réagir à l'émission sur notre numéro. À tout de suite. De retour dans Virage Marseille avec Alexandre Jacquin et Martin Duclos. On fait le bilan de cette ère Longoria. On en a parlé en première partie. Avant de conclure un petit peu sur ce thème-là et d'aborder vos tops et vos flops, messieurs, que retenir de cette ère Longoria qui aura quand même duré 5 ans. C'est vrai que lorsqu'il est arrivé, le club n'avait pas la même force de frappe, la même puissance qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il ne vaut plus le même prix non plus. Longoria a élevé le niveau de ce club et la valeur de ce club. Qu'est-ce qui faisait sa force? Qu'est-ce que vous retenez de cette ère Longoria, Alexandre?
Si je dois retenir un point positif, c'est qu'il a rempli le stade. Non mais vraiment, il a ramené la passion. Alors c'est pas que parce qu'il est arrivé post-Covid, il a ramené la passion dans le club avec des personnalités, Sampaoli, Tudor, des joueurs, Guendouzi, il a vraiment un flair en recrutement dans ce qui symbolise Marseille. Ça, je parle du Longoria 1, le Longoria 2 après l'épisode Marcelino, ça a été un peu plus compliqué, mais ça je retiendrai, c'est ce que je vais retenir de lui et de très positif, parce que je trouve que ça a été un bon président pour lui, même si sur la fin, comme
c'était
je disais, il a plus la stature de président. Mais si on se remet en février 2021, quand il remplace Jacques-Henri Hérault, on se dit, voilà, il est un peu jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, pendant 2 ans et demi, il a porté l'OM. C'était l'OM de Longoria, les supporters l'adoraient. Après, forcément, il y a eu beaucoup trop de transferts, il y a eu beaucoup trop de mouvements, beaucoup trop de changements dans l'organigramme, ce qui nuit un peu à son bilan. Il y a aussi une situation financière qui est aujourd'hui très compliquée, peut-être due à un manque d'anticipation et de gestion avec... ça a l'air trop élevé, bon. Mais par contre, il a ramené la passion à un moment donné où c'était vraiment tendu. Quoi. Voilà, c'est ce que je retiendrai.
Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il s'est donné à 100%. C'était sa première expérience à ce poste-là. On se rappelle qu'avant, il était chef scout et après directeur sportif. Donc, c'est sa première expérience en tant que président. C'était pas simple. Et comme le dit très bien Alexandre, j'ai trouvé qu'il s'est donné à fond, qu'on se rappelle d'ailleurs qu'il avait d'énormes cernes très souvent en interview parce qu'il travaillait...
C'est ça que j'allais dire, ouais. C'est ce temps qu'il a passé avec nous, les journalistes, la presse, pendant des heures à répondre à toutes les questions.
Oui, on sent qu'il a vraiment voulu mettre quelque chose en place de nouveau. On sait aussi qu'il a nettoyé un petit peu l'environnement autour du club. Ça n'a pas été simple. Ça lui a d'ailleurs, je crois que c'est dans la Provence qu'il s'était exprimé en disant qu'il avait eu quelques soucis ou que... Bref. Donc moi, j'ai trouvé qu'il avait travaillé, qu'il avait des idées. Ça aussi, ça manquait un petit peu d'avoir des idées novatrices. Il a mis pas mal de choses en place, que ce soit sur la ferveur dans les stades.
La restructuration. Administrativement aussi.
Exactement, il a restructuré administrativement. De mémoire, je crois qu'il a travaillé aussi tout ce qui est un petit peu communication, marketing. Enfin, il a essayé de moderniser un petit peu le club là où il était un petit peu à l'ancienne sur certains points. Donc moi, j'ai trouvé qu'il s'était donné. Il savait aussi que c'était sa première expérience, donc c'était à lui de jouer. Mais il avait mis beaucoup d'énergie dans ce projet au début.
Il a fait des gros coups quand même, les entraîneurs qu'il a fait venir.
Ça, voilà, moi, sportivement, c'est pour ça, des gros coups. Après, son problème, c'était l'excès. Et il n'a pas structuré l'OM. Aujourd'hui, c'est un champ de ruines, l'OM. Il n'a pas structuré, il n'a pas pensé à que sera l'OM sans moi, sans lui, en fait. Il a vécu sa passion, il a vécu son truc. Oui. Il a réfléchi à l'équipe en septembre, mais en octobre, il réfléchissait en top, puis en novembre, il réfléchissait. Puis les gens, en fait, il était pas très fidèle en collaboration avec les gens. En fait. C'est-à-dire que en septembre, c'était un tel qui était le cerveau, et puis en novembre, non. En fait, voilà. Mais quand même, on ne peut pas lui reprocher d'avoir mouillé le maillot pour l'OM. Quoi.
Ouais, ouais, ça, c'est le manque d'expérience, voilà, au final, aussi, qui fait qu'il y a des choses qu'il a ratées ou pas anticipées. Mais je pense que c'est bien normal.
Et on peut peut-être aussi regretter le fait qu'il soit parti par la petite porte, hein, comme ça, en cours de saison. Je pense qu'il aurait mérité peut-être un peu plus de reconnaissance pour le travail accompli, quand même 5 ans à la tête de l'Olympique de Marseille en tant que président dans un tel contexte. Mais il a su très vite rebondir. Hein. Lui qui est déjà redevenu directeur sportif en Argentine du club de River Plate.
Par contre, il ne veut plus de président.
Hein?
C'est-à-dire que là, il veut faire que du football.
Ouais, ouais,
voilà, là, c'est là où il excelle. Le côté institution, ça l'a un peu...
Ouais. Juan qui nous dit « J'ai bien aimé Pablo, mais beaucoup trop de recrues. » On est bien d'accord, évidemment. Cette frénésie qu'il n'a pas réussi. Voilà, l'OM est dans notre cœur. Me tarde de nous voir la nouvelle saison. Salut Christine, qui est heureuse de nous...
Et plus que les recrues, c'est les salaires trop élevés en fait qui plombent aujourd'hui. Des salaires beaucoup trop élevés.
Ah ouais.
Parce qu'à la limite, les recrues... Ça en marche France, pas, ouais. On peut pas leur reprocher de changer Ouaï quand ça marchait pas à Brassier.
Elle est plus de 400 000 euros de Kondogbia qu'il va falloir, je pense, payer jusqu'à la fin de la saison prochaine parce qu'il va pas s'asseoir dessus. Ça risque de peser lourd dans la balance.
C'était aussi pour le nouveau projet d'arriver à attirer des joueurs de ce statut-là. Il a essayé de proposer forcément parce qu'il y avait peut-être moins de compétitivité, des gros salaires. Et ça aussi, ça a sûrement été
Le fameux pari risqué. Et aujourd'hui, ce risque, on le paye cash parce qu'on n'est pas qualifié pour les
Champions. Stéphane Richard, c'est l'antithèse. C'est l'inverse.
Là, ça va. La rigueur,
ça va être rigueur économique. Je ne dis pas austérité, parce qu'austérité, c'est péjoratif, mais ça va être...
Le retour à l'ère Jacques-Henri Hérault, un peu. La rigueur.
Fermer les robinets, en tout cas.
Ouais, en tout cas, on a peut-être besoin d'un retour au calme.
Ouais, Jacques-Henri Hérault, il a dépensé aussi. Hein.
Voilà.
Mais plutôt,
c'était à l'époque où ma courte...
Là, c'est plutôt... Là, ça
oui,
va
c'est
plutôt
le portefeuille bien...
Là, il va gérer un bon père de famille. Tu n'as pas d'argent, tu ne prends pas de joueur.
C'est ça.
Mais après...
On a peut-être
ça donnera peut-être un peu enfin une chance aux jeunes du centre de formation qui sont performants, qui sont bons.
Oui, et d'avoir des idées aussi. D'avoir des idées plus. C'est pour ça qu'un Lorenzi, on en parle.
Exactement, qui lui sait faire recruter et faire des équipes sans argent.
C'est ça aussi.
Franchement, si on peut gagner de l'argent, on peut gagner de l'argent comme ça aussi. Hein, parce que les 55 millions d'euros que tu peux avoir en te qualifiant en Ligue des Champions, Sur une recrue, tu peux les faire facilement.
Bien sûr.
Bon, messieurs, vos tops, vos flops, on vous a demandé, avant de venir, vos tops et vos flops. On a enlevé Greenwood parce que trop facile, évidemment, le top de la saison, le top du top, hein, la crème de la crème anglaise en plus. Vraiment, top. On espère qu'il restera. Lui, il le veut. Bon, sa femme le veut aussi, ça, c'est un point qui peut mal, peser dans la balance.
C'est mal parti.
Et ça va être compliqué. On va pas se cacher.
Financièrement, c'est-à-dire pour sans Ligue des Champions, se sauver et passer la DNCG, c'est le genre de joueur qui rapporte de l'argent. Quand même.
Ouais, c'est vrai. Bon, alors on commence par les tops de... et les flops de Martin. Tiens,
allez.
Ton top.
Mon top, moi j'ai mis Pechao.
Pechao.
Pechao, si tu veux.
Moi, j'ai tellement galéré à le dire au début.
Allez, alors Pechao. J'ai hésité avec, avec Wea, mais moi c'était plus pour souligner sa première saison à l'OM avec le prix de son transfert qui était quand même bien élevé.
Plus de 33 millions d'euros.
Voilà, plus de 33 millions d'euros. La nationalité brésilienne, je pense, lui a fait beaucoup de mal parce qu'on s'attendait à un joueur virevoltant qui soit capable de faire vraiment des dribbles, de déstabiliser beaucoup les défenses. Et finalement, c'est vraiment un joueur d'équipe. Moi, il m'a surpris dans sa capacité à rentrer dans le collectif, à faire les efforts. À être très souvent à être fiable, c'est-à-dire qu'il a été blessé, je crois, un match, c'est contre Nice.
42 matchs joués, c'est énorme.
Voilà, 42 matchs joués, donc ça aussi, quand on met de l'argent sur une recrue, c'est important qu'il puisse jouer un maximum de matchs. On voit qu'il a été décisif, bon, il y a peut-être à dire. Mais
en fait, au début, il a eu du mal.
Il a eu du mal sous Deserbi, beaucoup, parce que c'était un jeu, je pense qu'il faut un moment avant de prendre en compte le logiciel
Deserbi. C'était un jeu qui n'était pas tellement fait pour lui. On va dire que c'est peut-être aussi là la réussite d'Habib Bey, d'avoir su l'exploiter au maximum.
Complètement. Et on a vu tout de suite qu'avec Habib Bey, qu'avec un jeu beaucoup plus de transition, avec des espaces, et notamment l'appui des joueurs de côté, on l'a beaucoup plus vu dans un registre où ça l'a mis en valeur. Donc ça aussi, mais voilà, c'est pour souligner...
Très belle frappe, il faut le dire.
Ouais, c'est un joueur qui est capable, voilà, qui prend toujours sa chance, qui est attiré par le but, un peu comme un Greenwood, qui pour moi est très méchant. J'aime bien utiliser ce terme proche du but. Pachao aussi fait partie des joueurs qui sont méchants à l'approche d'une surface de réparation et qui cherchent à être décisifs.
Ton flop, présent, il s'affiche derrière toi.
Ben, trop facile, je dirais, mais oui, évidemment, Benjamin Pavard. Que dire sur la saison de Benjamin Pavard, c'est que quand il est arrivé, on avait beaucoup d'espoir et tout le monde était très content. Ancien champion du monde, vice-champion d'Europe avec l'Inter de Milan, passé par le Bayern de Munich aussi où il a fait de très bonnes choses. Et force est de constater qu'il ne s'en est pas sorti dans ce contexte-là. Là aussi, je pense qu'on s'est un petit peu fait avoir sur le côté leader parce qu'on pensait inconsciemment, quand on parle de Benjamin Pavard, on se dit qu'on attire un joueur avec un certain leadership, un certain charisme, le fait d'être passé par plusieurs grands clubs. Et en fait, non, j'ai l'impression que c'est...
pas sa nature.
C'est pas sa nature.
C'est un gentil.
Et voilà, c'est un... Sans parler spécialement d'être un gentil, mais ça, je suis d'accord. Là où un Balerdi joue souvent les méchants, alors que c'est très souvent quand il est concentré et qu'il ne fait pas l'idiot à sortir les attaquants du match qu'il fait ses meilleurs matchs. Mais Benjamin Pavard, ouais, force est de constater qu'il n'a pas su rebondir. Il a eu une période compliquée entre Lens, l'Atalanta, où ça ne s'est pas spécialement bien passé. Et puis, à sortie de ça, il n'a pas réussi à re-switcher. Je pense que mentalement, il a aussi été un petit peu touché. Et à la fin, il a subi vraiment cette fin de saison en sachant qu'il n'allait pas rester. Donc, ouais, c'est aussi un regret pour moi. Parce que j'en attendais pas mal de bonnes choses, mais en tout cas, ouais, ça fait partie des flops par rapport à l'exigence et les espoirs qu'il avait nourris à sa signature.
Benjamin Pavard qui, ce lundi soir, donc, a annoncé qu'il ne quittait l'Olympique de Marseille. Évidemment, clause beaucoup trop chère.
C'est pas vraiment une surprise.
L'option d'achat à plus de 13 millions ou 16 millions, je crois, d'euros. Beaucoup trop cher pour l'Olympique de Marseille. Merci, Martin. Les tops et les flops d'Alexandre Jacquin, directeur des sports de la Provence. Alexandre,
moi,
ton
j'ai
top.
Mis Ouéa, parce que, alors, première semaine un peu compliquée où il est un peu anodin. Et ensuite, à partir de Madrid, j'ai trouvé que régulier, même s'il a eu une petite baisse de régime, régulier, sérieux. Il faut se rappeler aussi qu'Oea, il hésitait à venir à l'OM. Il avait demandé un conseil à Adrien Rabiot, parce qu'il se connaissait du centre de formation du PSG. Adrien Rabiot lui avait dit, tu peux venir, mais au contraire, viens, ça va être super, ça va être énorme.
La Juve aussi,
évidemment. Et au final, quand Oea arrive, Rabiot s'en va. Voilà, première semaine un petit peu compliquée. Et après, moi, j'ai trouvé que franchement,
bon, joueur, je suis tout à fait d'accord.
Mais on aurait pu mettre Péchao aussi. Hein. Joueur très complet. J'espère qu'il va rester.
Oh, moi aussi.
Parce que c'est un joueur vraiment sur lequel on peut s'appuyer.
On a demandé de faire tout et.
Ouais, un joueur de vestiaire sérieux, sans jamais aucun problème. Et franchement, moi, je vois un bon leader pour la suite, ouais, un bon
ça.
Exemple sur le terrain
ça
pour
fait
pour
des
les autres.
Content pour lui aussi parce que il va vivre sa Coupe du Monde. À la maison en ayant été bon
mais pareil, ça c'est une bonne pioche de Mehdi Benatia,
très bonne pioche,
voilà, donc c'est pour ça dans le bilan faut pas l'oublier,
ouais, et puis à tous les postes ça débauche d'énergie, tu as souligné aussi, et effectivement c'est un joueur irréprochable,
c'est pour ça qu'il finit la saison un peu rincé parce
41 matchs aussi, hein, très gros joueur,
ouais. Et ton flop,
je suis peut-être un peu dur mais on attend plus d'un joueur comme ça, c'est-à-dire quand on connaît le niveau de Højbjerg, quand on sait la saison dernière, la saison 2024-25 qu'il l'a faite, on se souvient qu'à un moment donné il était blessé, ça a été la période qui a été un peu compliquée pour l'OM, on se dit deuxième saison ça va être lui le taulier, il termine capitaine et je le vois sur le...
Pareil, lui il paye le départ
de Rabiot,
hein.
Mais je vous mets au défi de regarder tous les matchs de la saison en vous isolant sur
le terrain. Il
faut pas.
Oui, il faut pas parce qu'on se dit.
Il y a beaucoup de gestes de bras.
Ouais, beaucoup. Voilà, et on se dit. Mais l'OM, il est. C'est plus le niveau du Højbjerg qu'on a connu la saison passée, non. Et qu'on a connu aussi à Tottenham. Et par moments, beaucoup on dirait Strootman, n'exagérons pas non plus.
Oui.
Mais Strootman.
Il y a des similitudes. Il y a des similitudes.
En fait, c'est pas quand je dis flop, c'est pas le plus mauvais Olympien de la saison. C'est
comment tu vis ce salut là, face à la tribune, comme s'il avait gagné la Ligue des Champions.
Il a déjà fait ça, non ?
Oui, à Nice, c'est un peu son.
Non, je pense qu'il va partir aussi, parce que c'est un gros salaire et que son histoire, il incarnait le milieu de terrain parfait avec Rongier et Rabiot. Le problème est qu'il s'est retrouvé orphelin de Rongier et de Rabiot.
Mais qui était proche,
à aucun moment, on est capable, nous, autour de la table, de dire qui était son compère du milieu de terrain. C'était une fois Kondogbia, une fois Vermeeren, une fois O'Reilly, une fois Timber, une fois on finit avec Nadi. Après, c'est pas évident de jouer comme ça, c'est comme une charnière centrale, en fait.
Je suis d'accord.
Il faut des automatismes, il faut des repères avec ses partenaires, et là, c'était pas...
D'accord.
On lui tire dessus, mais au moins lui, il était là.
Il a
fait le max.
Merci infiniment, messieurs, pour cette très belle émission.
Merci.
Et ce bilan qu'on a fait ensemble aujourd'hui sur les thèmes qu'on a abordés. Bonnes vacances.
Bonnes vacances à toi aussi.
Ouais, merci. Reposez-vous un petit peu parce que la saison prochaine, on aura besoin de vos forces et de votre analyse, messieurs. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci.
À vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Virage Marseille, bien évidemment. Belle soirée à vous.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.